Bonjour, bonsoir, vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast bimensuel de cinéma. On est reparti pour les films de la fin août. Confinement oblige, on est tous des masques, mais les cinémas restent ouverts, donc on va essayer d'en profiter un maximum. Et avant de vous présenter l'ensemble de l'équipe qui va parler ce soir à la table, j'aimerais qu'on accueille tous ensemble notre invité et eux, Imen. Bonjour Imen.
Bonjour. Bonjour, bonsoir, auditrice, auditeur.
On va foutre déjà. on sent que ça se la pète un peu.
Ouais, elle écoute tout.
Imen, tu es prof de français, mais qu'es-tu de plus?
Oui. Qui je suis de plus? Eh bien, je dirais que Flaubert et Baudelaire sont méga sûrs. J'aime bien écouter du post-punk aussi. Voilà quoi. Enfin, je vis ma vie, ma foi, de femme moderne, dans un monde moderne.
Si avec ça, on n'est pas racheté par Binge Audio, je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Imen, tu connais un petit peu le principe de l'émission. On a des coups de projo, on a le coup de projo Nostalgia qui est disponible directement pour nos auditeurs.
Oui.
Est-ce que toi, tu aurais deux coups de projo à nous proposer parmi voilà, le motto un petit peu du coup de projo, à savoir un film qui est culte pour les gens, mais pas forcément culte de manière générale?
Eh bien oui, alors je pense que je peux parler déjà d'un premier film qui m'a marqué il y a quelques années déjà, d'une réalisatrice que j'admire énormément qui s'appelle Jane Campion. Donc je pense que voilà, c'est une valeur sûre. Le film dont je vais parler par contre, ce n'est pas un film qui a eu énormément de retentissement bizarrement, mais que je trouve vraiment marquant au niveau de ses thématiques, c'est Portrait de femme, donc, qui a été réalisé en 1996. Donc, dans lequel nous pouvons admirer eh bien, la beauté et le talent de Nicole Kidman, voilà, qui dresse tout simplement le portrait d'une femme du 19e siècle. En fait, à la base, c'est un roman d'Henry James. Et en fait, c'est une femme qui est en fait, tiraillée entre différentes passions pour différents hommes de sa vie, tout simplement, et qui recherche en même temps eh bien, une certaine émancipation sociale à travers le fait justement d'échapper eh bien, au modèle de mariage. Tout simplement, voilà.
Okay. Bah, si ça peut nous permettre nous de nous échapper de la leçon de piano qui est un très bon film et qui est toujours cité comme celui de Jane Campion, et finalement au détriment de celui, il faut toujours un film plus connu que les autres, hein, mais
c'est ça.
Ça arrive, mais voilà, ça sera très bien. Et un deuxième peut-être.
Alors un deuxième film, oui, que j'ai beaucoup aimé, c'est un film britannique, par contre je ne me souviens pas de l'année, c'est un film de Rufus Norris qui s'appelle Broken.
Yes.
Et qui est vraiment exceptionnel, je trouve. C'est un film tout simplement qui dresse le portrait d'une préadolescente qui est atteinte en fait d'une forme de diabète, je crois. Et en fait, elle a une relation très particulière avec son père, en fait, dont le père est, enfin, la femme de famille est morte, en fait, la mère de la petite fille. Et en fait, ils ont une relation vraiment très belle et très touchante. Et en fait, il va y avoir un événement qui va venir bouleverser la vie de cette préadolescente. Et c'est une sorte en fait de coming age movie. Donc en fait, où on a vraiment ce passage un petit peu de l'âge préadolescent à quelque chose peut-être avec des problématiques beaucoup plus adultes, en tout cas. Et du coup, on suit un peu le parcours de cette jeune fille. Dans cette transition un peu violente mais qui semble nécessaire et qui est peinte avec énormément de tendresse et de compassion.
On va revenir vers toi Imen, merci beaucoup pour tes deux coups de projo. On va revenir vers toi parce que tout simplement on va faire un petit tour de table pour les recommandations culturelles de chacun. On va commencer par Nam et ça va nous permettre évidemment d'applaudir.
Bravo.
Bonjour Nam.
Bonjour, bonjour, merci.
Ça va?
Ouais, très bien. Et toi?
Bon, ça va.
D'accord.
Merci d'avoir fait l'intérim du montage.
Bah oui, y a pas de souci. Bah je suis content que tu reviennes.
Ben tiens.
Parce que ça prend un peu de temps quand même.
En effet. Nam, ton taroko culturel.
Alors moi, c'est un film qui est sorti en 1973 qui s'appelle La Clepsydre, que j'ai vu il y a environ un mois. Quand j'ai vu le film il y a à peu près un mois, je suis sorti de là, quand je l'ai fini je me suis dit bah c'était trop bien mais j'ai rien compris. Et mais depuis j'ai eu le temps d'y réfléchir un petit peu, et en fait la Clepsydre, c'est un film qui dans sa narration est très onirique, c'est-à-dire qu'on va passer d'une séquence à une autre avec juste le lien en fait du mouvement ou du personnage principal, qui des fois arrivé dans une situation, au début il sait pas ce qui se passe, on lui parle et puis il rentre dedans et puis il est dedans, comme dans un rêve en fait, t'es jamais perdu dans un rêve et c'est ce qui lui arrive. Et en fait, avec le recul, je pense que c'est un film qui traite, qui parle en fait de la Shoah, mais en prenant le parti de jamais citer la Seconde Guerre mondiale, ou les massacres qui ont eu lieu, et du coup qui décide de montrer un personnage qui arrive dans un lieu où les morts et les rêves prennent vie.
Okay.
Et du coup, il parle de la Shoah en montrant ce qui n'existe plus, donc la communauté dans laquelle il vit, dans laquelle il était enfant. Et je pense que c'est pour ça, enfin, du coup, dans le décor, dans les thématiques, il y a plein de choses qui renvoient à ça. Je pense que le film parle de ça. Et c'est, sinon, okay. C'est très beau.
Voilà. Bah, très bien, un film qu'on comprend pas forcément au premier regard, mais qui finalement a un message.
Oui.
Prends ça, Christopher N. C'est cadeau. Il y en aura d'autres. Quentin, bonjour.
Bonjour.
Oui. Alors, faut savoir, Quentin, avant que je précise qu'on est en public,
oui.
Comme Le Masque et la Plume, dont ouais. On a au moins une première partie avec la situation actuelle.
Absolument.
On va voir si t'as la plume, Quentin. J'en prie.
Eh bien, moi, ma recommandation culturelle, c'est un album qui n'est pas encore sorti,
Il a des liens privés.
Qui sort le 25 septembre, c'est le dernier album de Deftones. Mm-hmm. Bon, Deftones, si vous connaissez pas Deftones, en gros, c'est plus ou moins eux qui ont popularisé le genre du néo-metal dans les fin des années 90. Et en gros, ils sont revenus avec leur premier producteur. Donc voilà, il y a un retour aux sources. Donc tout le monde est plutôt impatient.
Producteur dans le sens de celui qui met de l'argent, producteur dans le sens de celui qui met des sons.
Celui qui fait l'enregistrement et qui oriente la direction artistique.
Très bien.
Voilà.
Bon, mais c'est bien.
C'est très bien. Ils ont sorti leur premier single qui s'appelle Homes et qui est très bien.
Mais question sérieuse, comment tu l'as écouté ?
Alors, j'ai pas écouté l'album, j'ai écouté le single, et étant donné que je suis fan de Deftones et que je
ça t'a suffi.
Ça m'a suffi.
Tu l'as préco, quoi.
Oui, je l'ai préco. allègrement.
Très bien. Lila. Bonjour, Lila.
Bonjour.
Lila, qu'est-ce que t'as vu de beau ?
Alors, moi, je ne l'ai pas vu là, je l'ai vu déjà l'année dernière. Mais si vous attrapez ce podcast à sa sortie et que vous habitez Paris, vous avez une chance de l'attraper en salle. Puisqu'il va faire l'objet. Oui, non, mais.
Faut pas te couper, excuse-moi.
Donc, c'est un court-métrage qui va faire l'objet donc, de projections au public ici, et dans les cinémas CGR.
Okay.
C'est Blood Machines. Du duo Seth Eckerman.
Ok, yes.
Donc Seth Eckerman, vous en avez peut-être entendu parler parce que en fait ils ont, ils font notamment des clips et le clip de Turbo Killer de Carpenter Brut. Voilà, avec une esthétique rétro-futuriste,
néant,
etc. Et en fait, Blood Machine, c'est un court-métrage qui se déroule dans le même univers et dans la même esthétique, sauf que là, on est dans l'espace, on est dans une, sur une planète inconnue, il y a des histoires de vaisseaux à l'intérieur de vaisseaux qui sont des femmes, des esprits de femmes, etc. Enfin, on est dans cette science-fiction qui a un imaginaire très organique. Il n'y a pas vraiment une histoire développée, mais en revanche, c'est plein les yeux, c'est plein de couleurs, plein de néons, d'éclairage, une esthétique vraiment très très léchée.
Et en termes de musique ?
Et en termes de musique, j'y arrive, et la BO est de Carpenter Brut,
évidemment.
Justement. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, continuation de cette collaboration, même univers, même collaborateur, même esthétique, et c'est une cinquantaine de minutes. C'est vraiment une expérience à vivre en salle. Si vous en avez l'opportunité et que ça vous intéresse, bien sûr, c'est vraiment une belle claque à se prendre dans la gueule en soir. Et je crois que donc là, il va être diffusé lors de ses diffusions en salle, il sera diffusé, si je ne dis pas de bêtises, avec un making of. Donc ça peut aussi être intéressant d'avoir ce regard-là.
Ok, merci Lila. Justin, bonjour Justin.
Oui. Bonjour.
Justin.
Oui, donc la recours, c'est la rentrée, donc la Cinémathèque reprend ses rétrospectives. Donc il y en a une à partir du 3 septembre consacrée à Don Siegel. Mm-hmm. Donc Don Siegel, c'est un réalisateur de polar des années 50, 60, 70, polar, film noir, western aussi. Et donc avec un style très, très sec, très efficace, c'est une des deux un des deux modèles de Clint Eastwood. En fait, il y avait deux modèles, c'était Sergio Leone pour le côté un peu stylisé, et puis Don Siegel pour le côté sans chichi direct. Donc, pas mal de films. Donc, y a, dans le plus connu, évidemment, il y a Inspecteur Harry. Mais sinon, il y a pas mal de petites découvertes à faire dans ces films des années 50-60. Ça a commencé dans la série B avec des petits films fauchés, qui, petite série B fauchée, mais donc il arrivait à exploiter au maximum le potentiel. Et puis il a grimpé au sein des studios. Si je devais en recommander un, si vous avez juste le temps d'en voir un, c'est un qui s'appelle The Lineup. Donc, où c'est une journée, c'est une sorte de film choral, mais qui suit en particulier deux tueurs à gages dans la ville, voilà, qui viennent chercher un magot le temps d'une journée dans la ville. Donc c'est une espèce de film choral avec pas mal d'événements qui se passent et puis pas mal de un côté un peu très violent, une violence assez assez marquée, assez étonnante pour l'époque, avec notamment il y a Eli Wallach, le truand dans Le Bon, la Brute et le Truand. Je crois que c'est son premier rôle au ciné, qui a un rôle assez surprenant. Donc voilà.
Ok, super. Maxime, bonjour. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas attrapé ici, toi.
Eh ben écoute, ouais, c'est chez moi, mais pour autant, j'y suis pas souvent. moi, j'en profite pour vous parler d'un film qui a pas pu être traité pendant les émissions de l'été, mais qui est un film qui doit encore être projeté dans certaines salles. C'est le film White Riot, qui est un film qui est du coup qui se base sur un peu les origines du punk contre le racisme dans les années 70 en Angleterre. Et un film qui voilà, montre la création d'un événement qui a eu lieu à Londres en 73, je crois, ou 75, peu importe, d'un concert qui mêlait reggae et rock dans un combat contre le racisme à une époque où le Front National montait grandement en Angleterre. Il y a eu une association culturelle pour lutter contre ça, donc voilà, peut-être qu'il faudra qu'on organise ça l'année prochaine.
White Riot, qui est une chanson de The Clash, parce que je crois que plus,
c'est la, tout à fait la référence voilà. Du film, puisque ça se conclut sur le concert qu'ont donné les Clash à Londres pendant cet événement.
Spoiler.
Ah merde.
On applaudit toujours les invités deux fois, Imen. Imen, donc je pense que tu as compris un peu le principe de la reco culturelle.
Effectivement. Alors du coup, je pense que je vais suivre Quentin parce que je vais parler de musique aussi. Ah. Donc je vais parler de la sortie d'un album d'un groupe irlandais de rock indé qui s'appelle Fontaines D.C. Donc peut-être que vous en avez entendu parler.
Okay.
Fontaine D.C., n'est-ce pas ? Qui est un groupe assez incroyable en fait. Ils sont arrivés un petit peu sur la scène rock indé européenne de manière très percutante l'année dernière. Ils font un peu parler d'eux quand même, pas mal même. Et donc leur nouvel album est sorti il y a un mois, tout juste je crois, qui s'appelle A Hero's Death, donc la mort d'un héros. Et donc c'est cette fois c'est incisif. Le chanteur a le charme de Ian Curtis de Joy Division. Donc rien que pour ça, faut foncer. Voilà.
Ok.
Allez l'écouter.
Quant à moi, je vais vous.
Robin, bonjour.
On en oublie les fondamentaux.
Mon chef.
J'entends rien. oui, je suis en représentation au Trianon. J'ai lu un livre. Mais avant que vous vous emballiez, c'est un livre sur le foot.
Ah oui. Ah, c'est ça. Anelka l'a compris.
Non, que j'ai vu d'ailleurs.
Je sais.
Je laisserai la vie dans l'épisode qui était très bien mené. Non, j'ai lu un livre qui s'appelle The Secret Footballer, qui est un joueur de première ligue, un joueur pro qui a signé pas mal de chroniques dans The Guardian au milieu des années 2010 et qui, sous couvert d'anonymat, explore un petit peu les rouages, les dessous du foot, en citant quelques noms, en donnant quelques exemples de ce qu'il faisait, en se mettant en cause lui aussi, mais en prenant voilà, à bras-le-corps quelques idées reçues et quelques idées pas reçues qu'on a sur le foot et sur les footballeurs en général. Ça dure quoi, une tête 100 pages, 120 pages, ça se lit très très bien, le mec a un petit style, il se survend un petit peu côté style, mais il a un petit style qui passe tout à fait. Et ça, pour les amateurs de foot, quel que soit un peu votre angle, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de truc. Pour l'info, pas mal de journalistes ont essayé de savoir qui c'était le fameux secret footballeur, et il y a eu quelques pistes mais qui n'ont jamais été vérifiées, confirmées. Donc à ce jour, on ne sait pas qui c'est, juste qu'il a joué en deuxième division au début des années 2000 et en première division aux alentours des années 2010.
Voilà. C'est traduit en français ?
C'est traduit en français, ouais. Il y a un deuxième tome que je n'ai pas lu, mais le premier était vraiment très bien. Merci beaucoup d'avoir écouté nos recos culturels. On espère que ça vous a donné envie de lire, de voir des films et ou de sortir. On vous rappelle que vous avez la liste dès maintenant des épisodes disponibles qu'on a chroniqué ce soir ou ce jour, en tout cas celui que vous écoutez. Merci beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner Facebook, Twitter, etc. de vous abonner aussi sur votre petite appli de podcast sur laquelle vous écoutez, c'est toujours cool et nous ça nous permet de voir un petit peu combien de gens nous écoutent. Et puis sans quoi, on vous souhaite de passer une bonne rentrée puisqu'on va sortir cet épisode plein septembre. Merci beaucoup, puis bon film.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, SoundCloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.